Bonjour à vous, chers auditeurs. Ici Chantal Doré, au micro d'Au fil du temps, l'émission qui nous fait voyager à travers les générations, dans le temps des uns et le temps des autres, comme le chantait Aznavour. En cette mi-septembre, au moment de notre première diffusion, nous sommes à un moment de transition, une période entre deux saisons qui me donne toujours un petit vague à l'âme. Pas envie de laisser aller l'été complètement, pas prête pour accueillir l'automne pleinement. Entre la petite robe estivale et le gros chandail à col roulé doudou, j'erre quelques jours et une certaine nostalgie s'empare de moi. J'ai voulu creuser ce phénomène de la nostalgie, cette fiancée des beaux souvenirs que l'on éclaire à la bougie, écrit le slammer Grand Corps Malade dans la chanson Rétroviseur. Et c'est justement à travers les chansons, la télévision et le cinéma que nous ferons ce voyage en nostalgie en compagnie de l'auteur Denis Bachand, professeur émérite au département de communication de l'Université d'Ottawa. La nostalgie est en effet un rétroviseur que l'on promène sur la ligne du temps qui passe, un véhicule d'exploration de nos états d'âme. La nostalgie est-elle nécessairement reliée à de la mélancolie? Ou si au contraire n'est-elle pas un miroir grossissant des émotions qu'on vivait à l'époque? Par exemple, si je vous dis « Tu te rappelles le dimanche autour de la table, ça riait, discutait. Comment vous sentez-vous? » Ou encore si je vous dis « Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. » Sans doute que ces mots de Claude Léveillé et de Jean-Pierre Ferland évoquent des souvenirs familiaux d'antan différents chez une personne ou une autre. Bref, y a-t-il des conditions pour avoir la nostalgie heureuse et en parallèle, quel goût a le bonheur en vieillissant? Nous en parlons en deuxième partie avec Winston McQuaid, que nous retrouvons avec plaisir. Lors de son passage en studio le 22 juin dernier, nous avions d'ailleurs plongé Winston dans toute une nostalgie en lui faisant entendre une chanson enregistrée avec sa fille Pénélope alors qu'elle n'avait que 8 ans. Paraît-il que nos chansons préférées activent un circuit de libération de dopamine qui procure une béatitude neurochimique. Avant de recevoir Denis Bachand pour parler de nostalgie, écoutons l'une de mes chansons nostalgiques de fin d'été préférées. C'est « En septembre » de Gilbert Bécaud.
Les oliviers baissent les bras, les raisins rougissent du nez, et le sable est devenu froid au blanc soleil. Maître baigneur et saisonnier retournent à leur vrai métier, et les 100 ans seront sculptés avant Noël. C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé. C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai. En été, mon pays à moi, en été, c'est n'importe quoi. Les caravanes, le camping-gaz, au grand soleil. La grande foire aux illusions, les slips trop courts, les shorts trop longs, les Hollandaises et leurs melons de Cavaillon. C'est en septembre, quand l'été remet ses souliers et que la plage est comme un ventre que personne n'a touché. C'est en septembre que mon pays peut respirer. Pays de mes jeunes années, là où mon père est enterré, mon école est échauffée au grand soleil. Au mois de mai, moi je m'en vais, et je te laisse aux étrangers pour aller faire l'étranger moi-même sous d'autres ciels. Mais en septembre, quand je reviens où je suis né et que ma plage me reconnaît, m'ouvre des bras de fiancée, c'est en septembre que je me fais la bonne année. C'est en septembre que je m'endors sous l'olivier.
C'est en septembre que l'on peut vivre pour de vrai, chante Gilbert Bécaud. Le livre de notre premier invité, Voyage en nostalgie, arbore d'ailleurs de magnifiques arbres feuillus de septembre, une jolie peinture, et c'est à travers un parcours des arts que nous explorerons la nostalgie avec Denis Bachan, qui est professeur émérite au département de communication de l'Université d'Ottawa. Donc, il a aussi été le directeur. Il a une longue feuille de route en recherche, a également publié de nombreuses réflexions au confluent des arts, de la culture et des médias. Nous le recevons pour parler d'un tout récent livre qui promène son regard sur les arts et les médias, mais qui explore cette notion de nostalgie. Bonjour, M. Bachan.
Bonjour, madame.
Quelle est la différence fondamentale entre la nostalgie et la mélancolie?
Ah oui, bon, ben ça fait l'objet de mes premières pages de l'essai où je pensais, à raison je pense, qu'il fallait bien distinguer entre les deux termes qui sont souvent confondus. Les recherches, enfin, bon, s'entendent généralement là-dessus, c'est-à-dire que la mélancolie, c'est un sentiment de perte radicale, enfin d'un objet que l'on a perdu et que l'on ne croit pas pouvoir retrouver d'aucune façon. Et donc, c'est avec tristesse que l'on habite la mélancolie, je dirais, et la mélancolie peut mener à la dépression. Alors que la nostalgie, enfin, moi, je la comprends de manière suivante, comme d'autres qui en ont fait des recherches, que je cite dans mon livre.
Absolument.
C'est plutôt une mise à distance des objets... mise à distance des objets qui ne sont pas perdus, mais qui sont mis à distance dans le temps ou dans l'espace, et envers lesquels on peut développer des rêveries nostalgiques qui, parfois peuvent être tristes, je l'accorde. Moi, j'ai surtout mis l'accent sur les rêveries heureuses, donc sur les nostalgies heureuses. Ça dépend de chacun, évidemment, j'imagine, mais moi, ce que j'ai fait comme parcours mémoriel, donc, c'est surtout un repérage de mes nostalgies heureuses, soit par des contacts avec des œuvres qui m'ont plongé dans le souvenir heureux, ou bien des œuvres qui, en elles-mêmes, portent ou comportent ou développent des projets nostalgiques en eux-mêmes. En elle-même, oui.
En fait, c'est fascinant, justement, en lisant votre livre, je me suis aperçue à quel point la nostalgie, elle traverse les arts, la culture, que ce soit dans la musique, le cinéma, la télévision, la publicité, vous allez même dans le répertoire des jeux vidéo.
Oui, tout à fait. Mais ça, oui, que ce soit... il y a plusieurs... Enfin, moi, je suis pas un grand joueur de jeux vidéo, un grand amateur de jeux vidéo, mais comme je le raconte dans le bouquin... Je suis venu pendant un ministre de la littérature qui est mon fond, enfin mon fond, pas mon fond de commerce, mais enfin, ma formation d'origine. Et la littérature qui offre souvent des paramètres à d'autres formes d'art, que ce soit dans les formes narratives ou dans les contenus qui sont adaptés selon différentes formes d'art. Et je suis venu, moi, en m'intéressant aux récits interactifs qui étaient à la mode au début donc d'Internet et du multimédia et tout ça. Et de fil en aiguille, mes enfants grandissant aussi et s'intéressant à Pac-Man et à toutes ces histoires de jeux vidéo, j'ai voulu regarder ça d'un peu plus près et constater que beaucoup des jeux ou des histoires que l'on y raconte, dont on devient le héros à force de franchir un certain nombre d'étapes pour franchir des épreuves et tout ça, bien c'est la base de nostalgie, que ce soit donc dans des histoires qui relèvent du Moyen Âge, donc des nostalgies que l'on a envers des périodes
qu'on n'a pas connues nous-mêmes.
Exactement, mais ça, je le pose d'entrée de jeu aussi dans mon premier chapitre qui est plus théorique, où certains auteurs définissent la nostalgie selon différents types. La nostalgie directe, qui est celle, ou authentique, qui est celle qui fait référence directement à des événements qu'on a vécu. La nostalgie indirecte ou vicariale, qui est celle que l'on a vécu, qu'on ressent par rapport à des objets qui nous ont été transmis, soit par des parents ou des lectures ou tout ça, ou même des nostalgies collectives, ce qui se réfère davantage à des phénomènes de masse ou de culturels.
Oui, c'est ça. Vous parlez de nostalgie vraie, simulée et collective.
Et
ça nous amène même à une nostalgie, soit effectivement qu'on n'a pas vécu ou même qu'on a l'impression d'avoir vécu. Vous parlez d'une étude, entre autres, d'une psychologue à l'Université de Californie appelée la Brigade des faux souvenirs.
Oui, tout à fait. Et ce laboratoire, donc, emmener une expérience, enfin, plusieurs expériences, dont une qui est absolument fascinante. Donc, auprès d'un échantillon de visiteurs de Disneyland. Après qu'ils aient visité Disneyland, on les a soumis à un questionnaire dans lequel on a introduit le personnage de Bugs Bunny. Et on leur a demandé comment ça s'était passé, la visite et tout ça. Et plusieurs d'entre eux, sinon la totalité, ont raconté avoir rencontré Bugs Bunny, lui avoir serré la main, avoir fait un bout de chemin avec eux, etc., etc. Or, Bugs Bunny n'est pas un personnage de Disneyland. C'est complètement donc aberrant. C'est donc un faux souvenir. C'est un souvenir qui a été implanté par la suite par les gens qui ont fait le questionnaire. Et donc, ça nous prouve à quelque part que le souvenir qui est en lien avec la mémoire, est souvent déformé, complètement en dehors de la plaque, si vous voulez.
Moi, j'ai été assez étonnée en lisant ça, même qu'on l'appelle l'effet Bugs Bunny.
Oui, tout à fait, l'effet Bugs Bunny. Et on parle aussi de l'effet de Marseille aussi, qui... on a tous connu ça un peu, c'est-à-dire que la nostalgie par rapport à des souvenirs qui sont exagérés, c'est-à-dire qu'à force de se remémorer certains épisodes de nos existences, j'ai envie de dire heureux ou malheureux, mais bon, j'espère plus heureux. On vient qu'à exagérer ces souvenirs-là. À chaque occurrence du souvenir, ça amplifie le souvenir un peu comme on dit parfois avec beaucoup de stéréotypes là, que les gens du sud de la France, les Marseillais, exagèrent tout le temps. Et quand ils ont pris un tout petit poisson, les pêcheurs exagèrent. Le poisson devient énorme à la fin quand ils l'ont raconté 5, 10, 15 fois. Alors, moi, vous voyez, je trouve que la nostalgie, c'est un fil conducteur dans nos existences.
Oui.
Paul Ricoeur a un beau terme qui l'emploie, c'est-à-dire l'identité narrative. C'est-à-dire ce qu'on se raconte sur nous-mêmes, l'espèce de voix intérieure qui nous raconte ce qu'on est, par rapport à ce qu'on a été. J'aime bien dire moi, je ne vis pas dans le passé, mais on vit avec son passé.
Oui.
Et donc, il y a toutes ces strates de périodes de notre vie, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, etc., la vie professionnelle, la vie amoureuse et tout ça. Et puis, bon, quand souvent, enfin, je pense qu'il y en a plusieurs qui doivent être comme moi, inconsciemment, sans qu'on le veuille vraiment, mais parfois, on veut s'y arrêter consciemment, et se repasser le film de notre vie un peu, pour voir où on en est. Et ça, ça se fait par le phénomène de la mémoire, mais aussi une mémoire, je dirais, nostalgique, c'est-à-dire qui fait ressortir les principaux événements pour lesquels on a plus de plus de plaisir à que l'on a plus de plaisir à retrouver, si vous voulez.
C'est, votre livre, justement, fait ce voyage-là à travers les arts et la culture, et c'est souvent à travers ça qu'on s'accroche, une chanson qui se revisite, et même vous disiez que ça a été pire pendant la pandémie, parce qu'il n'y avait pas de nécessairement de... Enfin, c'était plus difficile pour les artistes de créer, donc il y a eu beaucoup à la télévision, là, de programmes d'avant qui revenaient.
Oui, on a sorti des voûtes, beaucoup de programmation. Parce qu'il y avait
beaucoup
de production, donc il y avait un manque de production, donc on a sorti tout ça. Et peut-être un peu aussi pour se rappeler qu'on avait vécu des moments heureux, hein, et c'est pas négatif, au contraire. C'est bon, et on a ressorti des vieilles parties de hockey, des Nordiques de Québec contre les Canadiens, des parties des Expos de Montréal, enfin donc des comme pour faire ressurgir ou ressusciter. La nostalgie fait ressusciter. Hein? À la fin de mon livre, je parle d'un certain nombre de choses assez étonnantes aussi, c'est-à-dire qu'on, avec la réalité virtuelle, la réalité ajoutée, augmentée, tout ce qu'on veut, holographique, comme ABBA, le groupe ABBA vient de le faire ou va le faire, enfin des tournées.
Oui.
on ressuscite des morts qui sont sur scène et qui jouent avec des personnages réels aussi, en chair et en os. Donc, la nostalgie, ça a un rapport avec la résurrection.
Oui, tout à fait. Je veux vous entendre après une pièce musicale qu'on va écouter sur la nostalgie du futur. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, parlant de souvenirs, écoutons « J'ai souvenir encore » de Claude Dubois.
Ah oui.
J'ai souvenir encore d'une rue d'un quartier qui me vit souffrir, grandir par les années. C'est dans un vieux taudis que 10 ans de ma vie j'apprenais à mentir. Pourquoi vieillir? J'ai souvenir encore d'une vieille maison que l'on se partageait, chacun à sa façon. Un logement bien chauffé, on a si bien gelé. Les rats dans l'escalier prenaient leur déjeuner. J'ai souvenir encore de 4 jeunes garçons qui avaient grand plaisir à jouer les fanfarons. Les garçons de mon âge avaient pour voisinage Robineau, Duvigée, Putain de la Saint-Laurent. J'ai peu de souvenirs d'une vieille maison que l'on dut démolir, rangée par les saisons. Adieu rue Sanguinette, adieu mon coin vitré, mais ce soir je te laisse un peu de mes pensées.
J'ai souvenir encore de Claude Dubois.
C'est magnifique, hein? C'est magnifique comme chanson.
C'est vraiment beau, hein?
C'est superbe. En l'écoutant, je pensais à deux autres chansons que je mentionne dans le livre aussi. C'est la rue principale, les colocs, et puis les étoiles filantes de Cowboy Fringant, qui sont aussi des chansons de souvenirs, comme ça, évidemment, Frédéric de Claude Léveillé. Oui. Bon, il y en a un paquet, que ce soit, bon, même les westerns, Willie Lamotte. Et,
la bohème.
La bohème. Enfin, bref, on les compte plus. C'est-à-dire que, donc, et le phénomène intéressant avec les chansons comme ça aussi, vous avez sans doute remarqué dans le bouquin, je parle de cette théorie du pic de réminiscence, c'est-à-dire cette période entre, on dit, bon, je sais pas, 20, enfin, 18, 20, 30 ans, là, autour de ça, la période des premières expériences, la période des premières, là, les premiers amours.
Où ça se code plus dans le cerveau, hein, c'est
ouais,
ça?
Oui, ouais. Effectivement, il y a, en termes biologiques, en termes neurologiques, il y aurait des phénomènes de cet ordre-là qui font en sorte que ça s'imprime davantage les expériences à ce moment-là. Ce qui fait dire souvent, puis des fois je regrette qu'on dise ça comme ça, parce qu'après tout, on est dans le temps présent aussi, mais souvent on dit ah ben dans le temps, dans mon temps. Hein, oui. On a l'expression de dire dans mon temps, ben dans mon temps, là. dans mon temps, c'est aujourd'hui aussi, mais souvent dans mon temps, ça veut dire ce temps-là où ça s'est imprimé dans notre cerveau davantage les chansons qu'on aime réentendre, qui nous correspondent plus souvent que ce que l'on entend à l'époque actuelle, quand on y prête moins attention à l'époque actuelle. Mais à propos de l'époque actuelle, la fin de notre présent, même pour des septuagénaires que je suis, tout ça, et donc il y a cette belle réflexion de Serge Bouchard qui nous a quittés récemment, qui dit... qu'il faut que les occasions de nostalgie sont rares, donc il faut, en quelque part, prêter attention au présent et cultiver ces occasions-là, car, dit-il, c'est de cela que demain sera fait.
Oui. Hein? Parlons de demain, justement. On abordait avant la pièce musicale la nostalgie du futur. Et moi, je vais vous ramener dans un épisode de mon passé.
Ah oui.
Quand j'étais beaucoup trop jeune pour lire ce livre et le comprendre vraiment,
oui.
Mon père m'a suggéré de lire Le choc du futur d'Alvin oui. Toffler, que vous
oui.
citez.
Oui.
Où justement, lui, il prédisait qu'il y aurait la création d'espèces d'enclaves du passé.
Oui, 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 oui. Ben, dans l'enclave du passé pour oui, tout à fait. Bon, c'était prémonitoire jusqu'à un certain point, quoique ça devait exister déjà, mais enfin, des enclaves du passé. Les exemples que je donne, ça existe le village de Séraphin qui n'existe plus, mais qui a existé longtemps. Le village acadien de Caraquet, le Upper Canada Village, ce sont des espèces d'enclaves, on appelle ça la nostalgie de la restauration, hein, nostalgie restauratrice, donc qui est celle qui essaie de restaurer les objets comme ils étaient dans le temps, même si ça peut être faux. Hein, et c'est pas, on sait très bien aussi quand on essaie de retourner nous-mêmes dans notre passé, sur les lieux de notre enfance, mettons, comme Dubois le chantait, ça n'a plus du tout l'allure qu'on s'imagine, même si on y retourne 2, 3, 4, 5 fois. Moi, j'ai déjà fait l'exercice, et puis, mon Dieu.
Les rallyes nostalgie.
Hein, ouais, c'est plus du tout ce que c'était ou ce que on se représente dans notre esprit. Tout a changé. Nous avons changé un peu. Hein. C'est comme je dis aussi, c'est comme Ulysse quand il retourne sa Pénélope dans l'Odyssée. À un moment donné, ça a tout changé. Et puis finalement, la nostalgie, c'est pas retrouver ce qui existait, c'est retrouver sa jeunesse. Et ça oui. se peut pas.
Puis vous parliez aussi justement un peu avec la réalité virtuelle. Vous citez entre autres une série britannique que j'adore, Black Mirror.
Ouais.
Où il y a justement des épisodes de ce genre-là où on ressuscite des gens sous forme numérique avec toutes ces... On emmagasine justement des conversations ou des souvenirs
ouais.
qu'on a eus avec ces gens-là.
Oui, bien ça, c'est un phénomène assez limite, j'ai envie de dire. Quoi qu'il y aurait peut-être d'autres expériences, d'autres qu'on pourrait trouver dans l'histoire de la littérature, tout ça, qui essaient de faire revivre des personnages, peut-être même Frankenstein, si vous voulez, mais enfin. Là, les avatars, c'est-à-dire que c'est j'oublie le nom de la créatrice en question, mais là, à la suite du décès de son copain, elle était une spécialiste de ce qu'on appelle les chatbox ou les avatars conversationnels, enfin les agents conversationnels numériques et tout ça. Bon, s'ennuyant de lui, etc., elle a regroupé, ramassé, si vous voulez, colligé toutes les traces qu'il avait laissées dans des messages textes, des messengers, des Facebook, mm-hmm. des courriels, etc., avec elle et avec toutes sortes d'autres personnes avec qui il avait pu être en contact. Et, bon, selon sa profession, enfin, ses capacités, son intelligence à elle-même, elle a monté ça, elle a tout réorganisé mm-hmm. ça pour créer un avatar numérique de son copain disparu. Bon, mais ça, ça reste numérique et virtuel dans son esprit à elle.
Mm-hmm.
Et c'est même devenu une application. Hein? On peut télécharger une application et se créer des avatars numériques comme ça.
Oui, c'est assez fascinant. On va explorer oui. un peu plus tard dans la saison, justement, tout le deuil numérique. Et
ah oui.
Il y a un autre épisode, je pense que c'est San Junipero, où les gens retournent dans une simulation de leur passé, de leur jeunesse, justement.
Oui, oui. Ouais. Bien, il y a... oui, donc je termine là-dessus pour revenir sur Black Mirror.
Oui.
Hein? À la différence dans Black Mirror, effectivement, l'avatar prend forme, prend vie jusqu'à un certain point. Il s'incarne.
Oui, il est téléchargé dans un faux corps.
Dans un faux corps, mais c'est le corps qui est éternellement le même, etc. Oui, c'est ça, mais bon... Et puis bon, ben les deuils numériques et tout ça, oui, c'est oui.
J'ai non, mais là, on rentre. Ben, je vais peut-être vous poser une dernière question en terminant parce que votre ouvrage est vraiment très, très riche et oui. moi, j'ai une affection, une prédilection pour les rituels. Et je me demandais comment justement le rituel alimente les souvenirs.
Ah ben, les rituels alimentent le souvenir.
Comme ciné-cadeau, ben. Le fait de réécouter. Quoique là, c'est des films d'Astérix, on pourra peut-être plus les réécouter.
Ben, j'espère que oui quand même, qu'on revienne sur cet épisode malheureux quand même,
ouais.
à un moment donné, puis qu'on ne mette pas tout au bûcher là quand même, parce que là, on va pas mettre le feu à toutes nos nostalgies quand même. Hein. Ça fait penser, moi, dans le temps, je le dis dans le volume aussi, à un moment donné, moi, je faisais la parade de la Saint-Jean-Baptiste, puis j'étais habillé en indien et tout
ouais.
ça. Bon, maintenant, il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait plus faire, quoi. Enfin, c'est, disons qu'on mette ça en parenthèse, là, c'est un autre sujet, mais d'importance actuellement, très, très important. Oui, les rituels, bien sûr, les rituels, que ce soit la chanson, se regrouper entre amis pour écouter des chansons de notre temps,
mm-hmm.
que ce soit les Beatles ou les chansonniers, les O'Ferré, les autres et tout ça, ça nous replonge dans des sentiments, des émotions comme si on redécouvrait ce qu'on a découvert pour la première fois. Quoi.
Absolument. Et les faire découvrir aux nouvelles générations, c'est une manière
oui.
de les garder toujours
oui.
vivantes.
Oui.
Merci beaucoup, Monsieur Bachand. Ça a été un plaisir et vraiment votre livre « Voyage en nostalgie, parcours mémoriel à travers les arts et les médias » aux éditions de l'Université d'Ottawa est franchement vraiment intéressant.
Bien, je vous remercie. Je vous remercie, madame, de l'invitation.
Merci, au plaisir.
Au revoir.
En deuxième partie, le bonheur en vieillissant avec Winston McQuaid.
Vous écoutez « Au fil du temps » avec Chantal Doré.
Pour cette deuxième demi-heure, on cause de l'évolution du bonheur avec Winston McQuaid, un animateur qui fait sans doute surgir beaucoup de nostalgie chez les plus âgés d'entre nous avec toutes les belles années qu'il a passées à la télévision de Radio-Canada. Si vous avez envie de réécouter un épisode dans lequel nous avons déjà causé avec Winston McQuaid, c'était le 22 juin dernier, je vous invite à aller sur canalem.vuesetvoix.com. Nous sommes également sur Spotify, sur Google Podcast et sur Apple Balado. Avant de recevoir Winston et pour parler du bonheur, écoutons une chanson de Mickey 3D. Chanson du bonheur qui fait peur, une découverte de Maurice Bolduc.
Ah les amis, la voici, la chanson du bonheur. Elle est passée par ici, je l'ai vue tout à l'heure.
Elle est déjà repartie, oui, mais je ne sais où. Si je la trouve aujourd'hui, je lui mange le cou. Ah les amis, la voici, la chanson qui fait peur. Celle qui nous lève la nuit et nous mène à l'horreur. C'est comme l'histoire de cet homme qui n'a jamais dit oui. J'ai atterri par hasard sur ce rêve bizarre. Enfin, le jour se lève. Facile après avoir été abandonné comme un sac en bas de l'escalier, pour être encore maintes fois malmené par la peau, balancé sur le trottoir comme un clochard d'assaut. Pendant ce temps dans la ville, les monuments s'ennuient. Il prend la main de la fille, il la trouve jolie. Ça fait des heures et des heures que le soleil se couche. Elle le trouve un peu sauvage mais lui mange la bouche. Le jour se lève enfin, enfin. Le jour se lève enfin, enfin. Le jour se lève enfin, enfin. Le jour se lève. Se lève enfin, enfin, le jour se lève enfin, enfin.
La chanson du bonheur qui fait peur de Mickey 3D. Nous avons eu le plaisir de recevoir Winston McQuaid, qui a longtemps été animateur télé à Radio-Canada, alors que sa fille Pénélope occupe maintenant un créneau enviable à la radio de Radio-Canada. Et lors de son passage le 22 juin dernier à Au fil du temps, nous avions vécu un beau moment de nostalgie avec Winston, alors qu'on lui a fait enregistrer, on lui a fait écouter une chanson enregistrée à l'époque où Pénélope n'avait que 8 ans. C'était un beau moment, ça, Winston.
Puis je dis, le titre de la chanson est, bon, vient dans ma maison. Ouais. Et c'est un peu ce que tu as fait aujourd'hui. Tu m'invites dans ta maison et je trouve ça très généreux de ta part.
Ben, c'était tellement une belle conversation qu'on s'est dit, tiens, reprenons ça. Et j'ai appris avec plaisir que tu avais conçu une conférence sur le bonheur. Et on était curieux, Catherine, Maurice et moi, de t'entendre à ce sujet.
Ben, écoute, le bonheur, c'est un peu comme la renaissance perpétuelle de l'homme ou de la femme. Et on a tous dans nos vies, on connaît tous des étapes. On passe par différentes étapes. Et rendu à, bon, dans la cinquantaine, si on veut, à mi-chemin dans nos vies, pour la plupart d'entre nous, qui sommes assez chanceux d'être et d'avoir maintenu une bonne santé, c'est une période charnière, dans la mesure où on doit, même si on ne veut pas, ça s'impose. On est en quête et à la recherche de bonheur. Et rendu à cet âge-là, il y a aussi une certaine maturité qui s'est installée, un brin de sagesse qui s'est installé, ce qui nous permet de s'interroger, de se remettre en question et de se reposer la question, ou de se la poser peut-être pour la première fois. Est-ce que rendu là, j'ai réalisé un certain nombre de choses dans ma vie avec succès, avec plus ou moins de succès, est-ce que, rendu là, je peux dire que je suis un homme heureux et que j'envisage l'avenir dans cette perspective-là. Alors, c'est la grande question et c'est la question qui m'amène à questionner l'homme de la Renaissance. Il y a une expression en anglais qui dit « Renaissance man ».
Oui.
Et c'est une époque importante et c'est une époque qui détermine en même temps comment on va passer le restant des années devant nous parce que par les temps qui courent avec le temps qui est devant nous, on se rend compte qu'on vit de plus en plus longtemps. Alors à 50 ans, pour bien des gens, il reste encore 50 années devant nous. Et si on a pris dans nos têtes, si on s'est dit « Moi, rendu là, je suis retraité, je vais prendre une retraite », mais tu fais quoi dans ce contexte-là? Alors, c'est un peu la question qui est sous-jacente. Comment envisager le bonheur dans la perspective où il nous reste beaucoup d'années à vivre et comment on se débrouille avec ça?
Bien, c'est ça. Je pense que c'est un peu ça le thème de ta conférence, comment le redéfinir quand on avance dans le temps, mais dans un temps qui a été... j'allais dire modifié génétiquement, mais c'est un peu ça. On vit quand même plus vieux, donc c'est pas la même perspective de vieillesse. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui me disent ça, qui vont prendre leur retraite à 57, 58, et à chaque fois, moi, je leur dis, mais tu vas faire quoi?
Il y en a qui ont le talent, ou en tout cas l'intelligence, de planifier ça longtemps d'avance.
Oui.
Il y en a pour qui la retraite, ça a été c'est l'occasion de jouir de son investissement, si on veut. Il y en a que ça aurait été on a investi dans un chalet, on a investi dans un voilier, on a investi dans un bateau, on a investi dans un condo quelque part au chaud l'hiver. Et ça, évidemment, c'est pas la majorité des gens.
Non.
Ce sont des gens plus fortunés ou en tout cas qui ont eu l'occasion de planifier longtemps d'avance. C'est des gens qui sont pas mal certains du chemin qu'il leur reste à faire et comment ils vont le passer. Mais c'est pas le cas de tout le monde. En avançant dans le temps, il y a plusieurs personnes qui... Bon, chez les hommes, ça peut être on attrape un cancer en quelque part, un cancer de la prostate. Chez certaines femmes, c'est un cancer qui va se placer ailleurs dans le corps. Et ça vient miner un petit peu nos possibilités. Et il faut tout le temps, et ça, je pense qu'à partir de la cinquantaine, de la soixantaine, il faut réviser constamment quelles sont les perspectives pour nous d'embarquer dans une forme d'activité qui va nous procurer du bonheur. Les enfants sont partis, les enfants sont élevés, sont passés par l'université où ils ont décidé de voyager, ils ont décidé de faire leur vie autrement, et ils comptent plus sur nous. Donc, on se retrouve seul à seul, si on a cette chance d'être en couple depuis plusieurs années, mais c'est aussi un moment où on remet cela en question. Si on est face à face et on ne parle plus le même langage et nos intérêts sont divergents, et surtout s'il y a un manque de communication dans le couple qui se retrouve 20 ans plus tard comme au début de leur relation avec tout leur vécu, est-ce qu'on est bien sûr que c'est ce qu'on a envie de faire, continuer à vivre à deux? Alors que souvent, il y a des choses qui se sont effritées en cours de route.
Sachant qu'il y a beaucoup de temps devant nous et donc qu'on pourrait, on pourrait décider de prendre un autre chemin plutôt que de dire, bon, ben, rendu à cet âge-là, aussi bien tolérer ce qui est là.
Ben, c'est-à-dire que si on a 50 ans et que ça correspond à celui que nous souhaitions être, tant mieux. Mais il y en a pour qui c'est pas le cas. Et si ce n'est pas le cas, ben, on est un peu moins heureux, puis il faut se trouver une façon. Il faut trouver une façon de continuer à progresser, à enrichir sa curiosité et faire en sorte que le temps qui reste devant nous, on va le passer de la meilleure façon possible. C'est, on a passé notre vie à penser aux autres, à agir pour les autres. C'est, on a élevé nos enfants, on a tout fait pour que la famille, ça se passe bien. Si le couple, les deux dans le couple avaient des carrières, ben, c'est l'occasion aussi de remettre certaines choses en question. Mais c'est pas facile de faire ça. Alors, ce qu'il faut, je pense, moi, souligner ici, c'est qu'on doit, dans un premier temps, se choisir. T'sais, on a choisi tout le monde et on a donné un coup de main à tout le monde et permis à plein de gens de faire toutes sortes de choses, dont l'éducation, dont la façon d'être élevé, dont les contacts avec la famille, etc. Maintenant, rendu là, il serait peut-être temps qu'on commence à penser à nous, quelles sont nos envies, quels sont nos objectifs et comment a-t-on préparé cette fameuse retraite. Et si on ne l'a pas fait, ben, il serait temps de se mettre à l'ouvrage.
Tout à l'heure, tu listais beaucoup de rêves qui sont peut-être plus de l'ordre, soit des possessions, donc avoir, ou de l'ordre de faire des projets. Mais quand tu parles de se choisir, on est plus dans être.
Voilà. Être, et il y a toutes sortes de façons de s'y retrouver. Il y en a qui vont le faire par le biais de la méditation, il y en a qui vont le faire par le biais d'une envie qui a toujours été là et qu'on a pratiquée doucement, mais qu'on pourrait peut-être pousser un peu plus loin. Je prends le cas d'un ébéniste, quelqu'un qui, toute sa vie durant, a aimé ça dans sa cave, bien outillé, travailler à construire des meubles ou à faire du travail d'ébénisterie. Mais quand tu sais que tu auras beaucoup de temps, tu auras des semaines, des heures, tu sais, tu as l'habitude de travailler, je ne sais pas moi, 10 heures par jour, 5 jours par semaine, bien, ça commence à faire pas mal d'heures, ça, à aller vers la retraite. Et maintenant, tu es rendu là, tu as 50 heures de temps libre, là, si tu sais, bon. Et si on le canalise correctement, ce qui était des passions ou des intérêts ou des curiosités peuvent tout à coup s'avérer être des passions qui peuvent mener à quelque chose. Et si on devient, dans le cas d'un ébéniste, par exemple, assez habile pour produire des choses qui pourraient être, pourront intéresser d'autres, par le biais soit des réseaux sociaux, qu'on peut afficher ici à droite et à gauche, et même aller chercher de l'aide, de l'aide spécialisée pour s'améliorer. Et c'est une démarche qui, tout à coup, vers l'âge de 55-60 ans, commence, mais qui a un grand potentiel aussi. Faut pas se limiter à dire qu'une fois que je serai rendu à la retraite, moi, ça y est, j'ai fait mon tour de piste, merci, ciao, j'attends que le reste se passe, je ne sais pas trop comment. Mais ça, c'est pas la bonne, quant à moi, la bonne décision.
Winston, nous allons continuer notre conversation sur le bonheur après une pièce qui est évidemment bien intitulée « Le petit bonheur », chantée par Dalida. On parlait de nostalgie en première partie. Alors, pour moi, c'est une des chanteuses qui occupe un créneau enviable en nostalgie. Donc, « Le petit bonheur » de Dalida.
C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier: Madame, ramassez-moi, chez vous, amène-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Madame, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvrée, j'avais des goûts de la recommencer. Quand il pleuvait dehors ou que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais c'est toi que j'aime. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons. C'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli, que je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours, la tête
même s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes bagages. Et je passe même dans des pays de malheur. Aujourd'hui quand je pars à l'aventure et en voyage, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux.
Le petit bonheur. Évidemment, vous avez reconnu les mots de Félix Leclerc, joliment prononcés par Dalida. Nous sommes de retour avec Winston McQuaid. Nous parlons du bonheur en vieillissant. Et j'écoutais la chanson Winston et je me disais, hein, ça illustre vraiment comment on a souvent la perception que le bonheur, c'est à travers l'autre.
T'as parfaitement raison. On est souvent en attente et lié émotivement, tellement près par moment que ça devient difficile de penser juste pour nous. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler sur la communication pour ça. Mm. Si on est en couple et qu'on arrive à un certain point dans la vie, dans la cinquantaine avancée, dans la soixantaine, je pense que c'est pas compliqué pour maintenir une communication qui soit positive, qui soit constructive, qui soit qui mène inévitablement vers le bonheur, pour se parler. Il y a des gens qui ont cessé au cours des années de se parler, ou en tout cas de se parler des vraies affaires. Tu sais, je veux dire, jaser, c'est une chose, mais se parler vraiment avec le cœur, se parler de cœur à cœur, sur des sujets qui sont importants, je pense qu'il faut cultiver ça, ça se cultive. Ça se perd très facilement au cours du temps, mais à un moment donné, on se rend compte que c'est inévitable. Si on veut continuer à progresser ensemble, à prendre de l'âge ensemble, faut que cette discussion-là soit ouverte. Et je pense qu'il faut le faire aussi dans un élan de, comment dire, d'humour, un élan de lâcher prise, un élan qui nous permet à la fois de rire de soi et de s'amuser avec l'autre aussi. Et si on réussit à trouver cette espèce de formule magique, ben, le couple en a long à faire devant soi. Et la question que je me pose aussi souvent, c'est est-ce que le bonheur, est-ce qu'on peut dire que le bonheur des hommes est différent du bonheur des femmes?
Oui, effectivement, tu abordes ça dans ta conférence, hein, les différentes perceptions du bonheur. Puis j'imagine aussi qu'il y a une perspective générationnelle là-dedans, parce que tu me parles quand même du point de vue ou de la place d'un homme de ta génération.
Absolument. Parce que je te donne l'exemple de notre couple. Moi, il y a 20 ans qui nous séparent. Hein. Mm-hmm. Alors, si moi j'ai 78 ans, c'est-à-dire que ma compagne en a 55, et c'est dire qu'il faut qu'on soit aligné sur des sujets qui nous ressemblent et qui nous passionnent et dont on peut parler. C'est, on partage des choses dans le quotidien. C'est une chose de partager le quotidien, c'est-à-dire qu'on on mange les repas ensemble, etc., puis on prend la voiture, on est deux, puis bon, whatever. Mais en même temps, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est être à l'écoute de l'autre et que l'autre soit à l'écoute de nous aussi dans toutes les sphères de la vie. Il faut être attentionné. Avoir de l'écoute, de l'empathie, un peu d'humilité et être attentionné, je pense que ce sont là des qualités qui font en sorte qu'un couple peut continuer, poursuivre sa marche, l'un à côté de l'autre, sans nécessairement avoir prendre des chemins des chemins chacun de leur côté, tu sais.
Mais tu évoquais dans la première partie, bon, les enfants qui partent de la maison, on se rend compte, moi j'ai mon fils qui est en résidence depuis un an et je m'aperçois du temps et de l'énergie mentale que ça représente, organiser les repas, penser à lui, et autant je m'en ennuie, autant j'ai une fierté parce que je voulais élever des enfants autonomes et ils le sont. Mais en même temps, justement, ça nous fait basculer entre le faire et l'être. Et je me dis, pour un couple où on est dans un tourbillon du quotidien, où on n'a pas le temps, où on ne prend pas le temps d'avoir ces conversations-là, comment on fait tout à coup là, avec ce temps-là qui se présente et quand on ne s'est pas pratiqué à la communication plus jeune?
Moi, j'en reviens toujours un peu à la même conclusion. C'est qu'en prenant l'âge, en prenant de l'âge, et qu'on se choisit d'abord, c'est une démarche. C'est une démarche qui peut être longue et parfois ardue, parce que ça implique différents types d'exercices qui nous ramènent près de nos valeurs primordiales. Et souvent, ces valeurs primordiales, on va les retrouver quand on fait un peu de méditation. Mm-hmm. Et là, je ne parle pas de méditation là, comme on voit au cinéma et tout ça, de réflexion, devrais-je dire, mais de réflexion sérieuse. Tu sais, au lieu d'aller, je ne sais pas moi, s'asseoir devant la télévision, prendre une marche, une longue marche, pardon. Et on peut partir faire une marche d'une heure de temps, mais en repassant dans nos têtes ce qui nous a troublés, ce qu'on devrait régler aussi, et ce qui nous permettra d'être en meilleure communication avec nous-mêmes et avec l'autre. Et l'autre, ce n'est pas nécessairement l'autre dans le couple, mais ça peut être l'autre, celui qui est autour, ça peut être l'ami, ça peut être le parent, ça peut être quelqu'un qui est autour, avec qui on partage une réciprocité sur le plan affectif, sur le plan des amitiés, sur le plan des choses qui nous passionnent. Alors, je dis tout ça, puis en même temps, ça a l'air facile de dire ça, mais c'est le travail d'une vie.
Absolument.
De s'embarquer dans une démarche qui nous permet d'être en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Et moi, j'appelle ça, si on arrive là, j'appelle ça le bonheur.
Puis en même temps, j'étais à la librairie l'autre fois et je regardais les titres de livres. Moi, c'est un de mes bonheurs d'aller fureter dans les librairies. Et, il y avait plusieurs titres qui parlaient d'une certaine manière de la dictature du bonheur, que parfois on vient qu'à tellement vouloir être heureux qu'on ne l'est plus.
Ça se peut? Là que ça prend un peu d'humilité. Hein.
Oui. Hein?
Ça prend un peu d'humilité. Je dirais que ça prend même beaucoup d'humilité par moment. C'est s'examiner à l'intérieur, c'est passer par-dessus l'ego. C'est passer par-dessus des valeurs qui sont véhiculées dans notre monde capitaliste, qui sont véhiculées dans les médias sociaux et tout ça. Moi, j'ai rien contre, mais dans la mesure où on est correct avec ça, qu'on est honnête avec nous-mêmes et qu'on fait véritablement ce qu'on a envie de faire et dire ce qu'on a envie de dire et réfléchir. La réflexion joue un très grand rôle là-dedans. C'est quand je parlais d'aller prendre une marche tout à l'heure, quand tu me parlais de ton fils qui est devenu ce qu'il est maintenant, c'est le résultat d'une démarche. Moi, j'ai un fils là, qui a eu 55 ans au début du mois de septembre, et lui, ses intérêts, tout à coup, sont passés du côté des intérêts de sa compagne. Et elle s'est intéressée il y a quelques années aux poules. Ça va te faire rire.
Oui. Aux poules urbaines!
Écoute, ils sont à la campagne. Et ils ont choisi de s'embarquer là-dedans. Ils ont commencé à investir doucement là-dedans, à aller chercher de l'information. Et là, on se rend compte que non seulement est-ce qu'ils sont bien là-dedans, mais ça a débordé sur la campagne autour, dans le sens où ils ont organisé leur terrain en fonction de cette passion qui est devenue une passion pour eux autres. Alors, il ne faut pas être négatif par rapport aux choses tout à coup qui nous apparaissent et qui ont la possibilité de devenir des passions. Il faut regarder ça, il faut être attentif à ça, il faut voir où ça pourrait nous mener et quelle est la qualité du bonheur que ça pourrait nous procurer. Parce que dans tout bonheur, il y a des bonheurs qui sont positifs et il y a des bonheurs qui le sont moins. C'est bon. Alors moi, j'essaie d'évacuer les choses qui le sont moins, la tristesse, le spleen.
Mais tu appelles ça quand même des bonheurs.
Mais j'appelle ça des bonheurs. C'est comme graduer le bonheur.
Ah, j'aime ça. J'aime vraiment ça, graduer le bonheur. Donc, il y a j'entends beaucoup de volonté, de courage et d'humilité, là, que ça devient vraiment une prise de conscience et un choix. Malgré, parce que je disais ça à un ami dernièrement, en vieillissant, là, il y a des ennuis de santé, on perd des gens qu'on aime. Donc, forcément, on ne peut pas se fier sur ce qui se passe à l'extérieur pour nous procurer du bonheur.
Je pense que la pire chose qui peut arriver à une personne, c'est de perdre ce désir, de perdre le désir dans un premier temps, mais le désir du bonheur. Et souvent, ce sont des gens qui sont seuls, qui ont perdu leur famille autour, qui sont dans des conditions, des situations. Ça peut être, bon, des maisons de retraite privées ou publiques ou des CHSLD. Et tout à coup, où il y a une grande solitude qui s'installe. Mmh. Et quand la solitude s'installe, en ce qui me concerne, c'est le début de la fin. Et pour ça, il ne faut pas hésiter. Ça, ce matin, j'ai pris le téléphone. J'ai parlé à une amie qui est passée à travers, qui passe toujours à travers une période très difficile de cancer.
Ouais. Il faut prendre ce temps-là de parler aux gens qu'on.
Il était content. Tu poses une question puis il part.
Hey Winston, il faut se quitter malheureusement. On poursuivra la conversation puis j'ai envie de terminer en disant comme dans la chanson. Après tout, il me reste la vie. Alors Winston McQuaid, merci d'avoir causé du bonheur avec nous.
C'est vraiment moi qui te remercie de me donner l'occasion de parler de bonheur parce que c'est pour moi l'élément le plus important dans ma vie.
Bye Winston! Bonne semaine à tous!